temps. Et pourtant, contrairement aux idées reçues, ce constat n'est pas irréversible. En réalité, la fameuse perte neuronale est moins importante que l'on ne le croyait. Pourquoi ? Pour deux raisons. De nouveaux neurones apparaissent, même s'il s'agit d'une faible quantité. Et surtout, après la mort de certains neurones, ceux qui restent vont développer de nouvelles voies de communication pour contourner les portes fermées et aller vers des portes d'entrée ouvertes, vers des synapses qui fonctionnent. De nouvelles connexions se font alors vers d'autres neurones. Ce phénomène va compenser la diminution du nombre de neurones jusqu'à un âge assez avancé, 60 ou 70 ans, parfois plus, comme vous allez le constater dans ce livre. Nous sommes donc capables de freiner notre vieillissement en créant de nouveaux réseaux de neurones, et c'est une découverte extraordinaire. Cette véritable révolution du cerveau est très récente. Quand j'étais étudiant, il n'y a pas si longtemps encore, les professeurs de neurologie ne parlaient pas de neuroplasticité, et pour cause. La connaissance du cerveau est longtemps restée littéralement figée. Telle fonction était strictement située à tel endroit. La production de cellules nerveuses s'arrêtait précocement dès l'âge de 2 ans, etc. Il faut se souvenir que pendant des millénaires, nous n'avons pas connu les fonctions du cerveau. On pensait même que l'activité mentale se situait dans le cœur. Cela explique d'ailleurs certaines expressions que nous utilisons encore aujourd'hui, comme « apprendre par cœur ». Pour Aristote, le cerveau est une sorte de radiateur. Il faudra une véritable révolution pour qu'il devienne le centre de la pensée. Grâce à Platon, d'abord, qui explique que l'âme est séparée en 3 parties, dont l'une immortelle est située dans la tête. Grâce aux grands noms de l'anatomie comme Hippocrate ou Hérophile ensuite. Avec eux, les médecins acceptent enfin l'idée qu'un dégât au niveau du cerveau a des répercussions sur le reste du corps, une paralysie par exemple. Mais malgré ces progrès, la connaissance du cerveau reste limitée et il faut attendre le XVIIIe siècle pour qu'une carte de ses fonctions, à présent obsolète, soit élaborée. Plus tard, Sherrington, futur prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1932, comprend que le cerveau et le corps entretiennent des relations complexes. Quand le corps ressent quelque chose, il en informe le cerveau et celui-ci réagit. Plus concrètement, si je me brûle la main sur un plat trop chaud, mon cerveau l'apprend. Il réagit de la manière la plus adaptée pour éloigner la main du plat. En une fraction de seconde, je vais la retirer. Ce constat nous paraît évident aujourd'hui, mais il a fallu des siècles pour en arriver là. On a également découvert que les neurones s'envoient des informations sous la forme d'un influx nerveux. Revenons à la comparaison avec les maisons, les portes d'entrée et les voies de communication. L'information circule le long des axones sous forme d'influx. Et une fois qu'elle est parvenue à la porte d'entrée, des messagers chimiques appelés neurotransmetteurs prennent le relais. Ils sont libérés en plus ou moins grande quantité dans les synapses, et ces portes d'entrée permettent de réguler les informations. On a découvert qu'il y avait 60 000 milliards de synapses dans notre cerveau, et donc autant de contacts entre les cellules nerveuses. C'est grâce à cette organisation qu'il existe des milliards de minuscules réseaux, de micro-circuits, dans seulement 1500 grammes de matière, le poids du cerveau humain. J'en arrive enfin à notre sujet, la neuroplasticité. Ce n'est qu'à partir de la moitié du XXe siècle que cette notion commence à apparaître. Mais je laisse à l'auteur de cet ouvrage le soin de raconter la suite de l'histoire. Passons plutôt aux applications de la neuroplasticité aujourd'hui. On ne s'en rend pas compte, mais en fait, cette nouvelle science est très présente dans notre vie quotidienne. Par exemple, savez-vous que la façon dont vous faites l'amour dépend de la manière dont sont organisés vos neurones? La théorie de la neuroplasticité bousculerait donc notre sexualité. On a parfois soutenu que la sexualité était soumise à nos instincts, les plus bas selon certains, les plus agréables selon d'autres. Autrement dit, à des phénomènes chimiques et hormonaux que l'on pensait bien connus et définitifs. Vous aimiez les femmes blondes ou vous étiez attiré par les hommes grands et bruns, eh bien c'est parce qu'ils stimulaient votre hypothalamus, une glande située dans notre cerveau, une sorte de chef d'orchestre de toutes les glandes de notre corps, y compris celles des testicules et des ovaires. Quand il était suffisamment stimulé, cet hypothalamus déclenchait une cascade de réactions qui avait pour but de faire apparaître le désir, une érection chez l'homme, la production de sécrétions vaginales chez la femme, etc. Autre idée reçue, dont nous n'avons pas conscience, mais qui influencerait nos choix. Une femme aux formes généreuses donnerait l'impression d'être plus féconde et plus capable de mener une grossesse à terme qu'une femme maigre. Un homme musclé saurait protéger sa famille et la mettre en sécurité. En réalité, nos préférences sexuelles sont façonnées par ce que nous avons vécu, par notre histoire, notamment dans notre enfance, puis à l'adolescence. Ici, je ne vous parle pas de psychologie, mais bien de neurologie. La plasticité joue, à ces périodes particulières, un rôle essentiel. C'est alors que l'hypothalamus, le système limbique qui est associé au plaisir et aux émotions et qui régit toutes les zones du cerveau en relation avec notre sexualité, développe de nouvelles connexions. Freud a d'ailleurs permis de mieux comprendre la plasticité sexuelle. Selon lui, l'épanouissement amoureux et sexuel évolue par stades, et la petite enfance est déterminante. Des enfants dont les parents sont tendres, proches, chercheront plus tard ces qualités chez leur partenaire. Si au contraire les relations sont violentes, très froides ou instables, les enfants auront tendance à reproduire ce schéma. Pourquoi ? Parce que ce schéma, précisément, s'est inscrit dans leur cerveau. Il a modifié le câblage des neurones, et plus tard, il influencera le comportement sexuel. La plasticité est très active à cet âge-là. Le cerveau garde donc des traces de tout ce qui y est vécu. Quand nous tombons amoureux, les neurones se réorganisent de manière très importante. De nouvelles connexions se mettent en place et un amour est né. Heureusement, les choses ne sont pas figées. Les connexions existantes peuvent se défaire et être remplacées par de nouvelles, ce qui permet de vivre plusieurs amours et d'avoir des préférences sexuelles très variées au cours d'une vie. La neuroplasticité offre également de l'espoir à tous ceux qui veulent changer leurs mauvaises habitudes. Car concrètement, ces changements de connexion veulent dire que le cerveau est capable de désapprendre ce qu'il a imprimé et mis en place. Le cerveau répond à un principe, « use it or lose it », et c'est une découverte récente. Cela signifie qu'un réseau de neurones qui n'est plus utilisé est perdu. Autrement dit, si on sollicite davantage d'émotions positives, celles-ci vont peu à peu remplacer les sentiments négatifs qui tendront à disparaître. Par exemple, plus on s'efforce de ne pas être de mauvaise humeur le matin en se levant, moins on le sera. Pour illustrer un peu plus la place de la neuroplasticité dans la vie de tous les jours, on peut aussi prendre l'exemple des chauffeurs de taxi londoniens. Grâce à des scanners de leur cerveau, on s'est aperçu que plus ils passent de temps à sillonner les rues de la capitale britannique, plus leur hippocampe est volumineux. Et c'est précisément à cet endroit que tout ce qui touche les représentations spatiales est stocké. Le même phénomène de développement de certaines zones du cerveau a été observé chez les musiciens ou sur des sujets qui se mettent à pratiquer de simples activités de loisirs. Qu'elles soient intellectuelles ou physiques, ces dernières vont modeler notre cerveau et modifier nos réseaux de neurones. Toute activité qui stimule assez le cortex cérébral, qu'elle fasse appel à la réflexion, à l'imagination, aux sensations, ou qu'elle soit physique, a un effet sur le cerveau et sur l'esprit. Nos activités, intellectuelles ou physiques, et notre cerveau sont en perpétuelle interaction. À tel point que la neuroplasticité est désormais enseignée à nos enfants depuis l'an 2000 dans le cadre des SVT, sciences de la vie et de la Terre, pour ceux qui n'auraient pas d'enfants au collège ou au lycée. Les jeunes apprennent désormais la notion de triple plasticité. La plasticité de développement, la plasticité adaptative et enfin la plasticité de récupération.